dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
C'est très difficile de faire une étude des réfugiés. D'abord, il n'y en a pas eu sur la France entière parce que chaque département a ses spécificités. Chaque département accueille plus ou moins certains types de populations. Que souvent on dit les juifs ils n'ont pas résisté, mais si les juifs ont résisté, les protestants ont résisté, les catholiques ont résisté, les athées ont résisté et tous d'autres ont collaboré. Et en fait, la résistance ou la collaboration, elle ne dépend pas d'une religion, elle dépend d'un état d'esprit. C'est insupportable. Et en fait, c'est ça qui a été le plus dur dans ma thèse. C'est tous ces morts qui n'ont rien demandé, qui sont insupportables. C'est tous ces gens aussi qui sont réfugiés avec des familles et des enfants. C'est ça qui est le plus dur dans ma thèse, mais heureusement elle est contrebalancée par des jolies choses et des belles histoires humanistes. Moi je parle d'exilé, je parle pas de migrant, parce que pour moi un migrant c'est celui qui est sur la route. C'est un terme américain que je déplore, et donc pour moi ce sont des exilés parce qu'ils sont sur la route de l'exil et ils sont arrivés, et une fois qu'ils sont arrivés ici, ils ont le droit d'y rester, pour moi. Mais on les trie, on les juge, on les fiche. Et on est exactement comme en 1938, puisqu'on n'est pas en guerre. Et donc c'est la même chose. On les enferme dans des camps. Ça s'appelle des centres de rétention administrative, pour pouvoir les expulser ensuite. On n'a pas beaucoup avancé, en fait.
Dissonance.
Joseph Hula.
Et Dany Joulier.
Historienne, Florence Delzon s'est penchée durant 4 années sur un chapitre sensible et encore peu exploré de notre histoire.
Son enquête interroge la manière dont une société accueille, protège, surveille ou rejette celles et ceux que l'on désigne comme exilés, réfugiés ou alors encore suspects ou indésirables.
Au fil de ses recherches, l'historienne met en avant des archives et des trajectoires humaines qui renvoient à une interrogation plus large.
Celle de notre rapport à l'obéissance et à la responsabilité individuelle. Car derrière les décisions administratives et les circulaires se dessine une question centrale.
Comment réagir face à des ordres qui exigent de dénoncer, d'exclure, voire d'envoyer d'autres êtres humains vers la mort ?
Le cœur de son travail porte un titre volontairement interrogatif.
L'Aveyron, terre de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le point d'interrogation en dit long. Car si le département a accueilli des populations déplacées, l'histoire qu'exhume les archives révèle une réalité bien plus ambivalente.
Dans l'émission Dissonance, Florence Delzon partage ainsi les résultats de son enquête, ce qui l'a profondément choqué dans les documents consultés, mais aussi les gestes d'humanité et de courage qu'elle a rencontrés au détour des archives.
Son récit convoque plusieurs figures et épisodes marquants. On y croise d'abord Jean Moulin, préfet de l'Aveyron entre 1937 et 1938, qui joua un rôle dans la protection des réfugiés espagnols antifascistes après la guerre civile.
L'historienne évoque également le destin des internés aveyronnais dans les camps de concentration de Rivesalte, Duvernay et de Gurs, ainsi que des rafles menées en Aveyron entre 1942 et 1944 contre des familles juives.
L'enquête met aussi en lumière des figures moins connues du grand public.
Parmi elles, Marguerite Borel et son époux Émile Borel, ancien maire de Saint-Affrique et mathématicien de renommée internationale. Leur parcours rappelle que l'opposition au régime et aux politiques antisémites s'est aussi incarnée dans des engagements discrets et déterminés.
Mais l'histoire révélée par Florence Delzon ne se limite pas aux personnages connus. Elle restitue surtout le rôle de nombreux anonymes, femmes et hommes ordinaires, qui ont aidé à cacher, à protéger ou à faire passer ceux que les autorités poursuivaient.
Au-delà des destins individuels, le travail de l'historienne met en évidence la complexité des stratégies de survie dans un département rural, soumis aux contraintes du régime de Vichy et à la pression de l'occupation.
Pour l'équipe de Dissonance, cette recherche ne relève pas seulement du travail de mémoire, elle agit aussi comme un miroir tendu au présent.
Car si les camps de concentration ont disparu du territoire français, d'autres dispositifs existent aujourd'hui. Les centres de rétention administrative et les mesures d'expulsion, telles que les obligations de quitter le territoire français, OQTF.
En évoquant l'accueil ou le rejet des exilés d'hier, Florence Delzon ouvre ainsi une réflexion plus large.
L'histoire, suggère-t-elle, ne se contente pas d'éclairer le passé.
Elle interroge aussi les choix que les sociétés contemporaines font face à celles et ceux qui cherchent refuge.
L'Aveyron, terre de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale.
Avec l'historienne Florence Delzon.
Sur Dissonance.
Je m'appelle Florence Delzon. Je viens de terminer une thèse dont le thème est l'Aveyron, terre de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale.
Bonjour donc Florence. Et pourquoi cette passion pour l'histoire ?
Cette passion pour l'histoire remonte à ma plus tendre enfance. J'ai commencé à m'intéresser aux Romains grâce à un instituteur qui était passionné par les Romains. Et en 1987, j'avais tout juste 10 ans, a eu lieu le procès de Klaus Barbie à Lyon. Et je m'y suis intéressée et j'ai plongé dedans. Alors que j'étais toute petite et que je pense que mes parents étaient peut-être pas encore aussi intéressés que moi. Mais j'ai pas compris qu'on puisse faire du mal à quelqu'un juste parce qu'il n'était pas comme soi ou défini comme soi. Et voilà, ça a été un déclencheur sur une passion pour la Seconde Guerre mondiale. Et sur une révolte contre l'ignominie.
Et c'est un premier travail que tu as réalisé de recherche en histoire ou il y a eu des précédents ? On va aborder tout à l'heure l'accueil des réfugiés en Aveyron, mais avant ?
Alors avant, j'ai fait un master 1 sur le couvent de Massip qui a caché des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et un master 2 sur la rafle du 26 août 1942 en Aveyron.
Une rafle faite par la police française ?
Exactement, et organisé par le gouvernement de Vichy. Et René Bousquet, évidemment.
Qu'est-ce que ça veut dire être doctorant en histoire ? Puisque c'est une thèse donc, que tu as défendue au mois de décembre à Paris, et ça te donne un titre ? C'est quoi pour les néophytes qui n'y connaissent rien de tout ce cursus ?
Un docteur en histoire, c'est le plus haut diplôme qu'on puisse avoir en France. Ça donne un statut, ça donne une reconnaissance. Pour moi, c'est une fierté d'être arrivée jusqu'à ce titre et de défendre le fait qu'un docteur, c'est un spécialiste, c'est un intellectuel et c'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout d'une recherche, parfois après des années de sueur et de larmes.
Donc pour cette recherche, combien d'années de sueur et de larmes ?
8 ans.
C'est énorme. Et donc on peut dire que tu es historienne, Florence.
C'est ça. Et effectivement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se décrètent historiens sans avoir même fait une année d'université en histoire et qui, du coup, mettent en danger aussi le travail scientifique parce que c'est un vrai travail scientifique. Le titre de docteur fait qu'on est reconnu par nos pairs, on est jugé. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur et de précision. Et le problème, c'est que toutes ces personnes qui se disent historiens, parfois n'ont pas la rigueur et la précision, et c'est dangereux, surtout aujourd'hui.
Donc, cette thèse que tu viens de réaliser, qui a pour titre ?
L'Aveyron, terre de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale, point d'interrogation.
Elle met en lumière, cette thèse, la complexité de l'accueil des réfugiés en Aveyron, de la Première Guerre mondiale jusqu'à 1944, fin de la Seconde Guerre mondiale, et elle révèle les tensions entre l'accueil et le rejet, tant au niveau individuel que collectif. En examinant l'histoire des réfugiés, tout en tenant compte des particularités locales et des réactions humaines à la crise, ton étude, Florence, constitue une réflexion nécessaire sur les leçons du passé et leur résonance avec les défis contemporains liés encore aujourd'hui à l'accueil des réfugiés. En fin de compte, ta thèse nous rappelle que la recherche d'un refuge est toujours et sera toujours une quête humaine universelle. Qu'est-ce que tu as découvert que tu ne savais pas en faisant cette thèse ?
Ce que j'ai découvert, c'est la variété des réfugiés. Parce qu'on a toujours l'impression que les réfugiés sont tous pareils, parce que c'est un mot, c'est une masse. En fait, non, c'est des individus. Et d'aller fouiller leur histoire, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous différents, qu'ils avaient tous des histoires particulières, d'où qu'ils viennent. Et parfois, ils se ressemblent, et parfois, alors qu'ils viennent d'endroits différents, et parfois, ils ne se ressemblent pas du tout, alors qu'ils viennent du même endroit. J'ai découvert que finalement, l'accueil, il avait peut-être été plus positif que ce que je ne pensais, et qu'il y a eu plein de belles histoires humaines, plein de belles rencontres malgré tout, et malgré une masse d'êtres humains qui arrivent dans le département de l'Aveyron, il y a des rencontres et des belles rencontres, et qui perdurent dans le temps, et ça, je trouve ça merveilleux.
Et pourquoi avoir fait débuter ta thèse des recherches à 1914. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de réfugiés ?
Avant, il y avait peu de réfugiés. D'abord parce que les guerres étaient très localisées. Et puis, avant, il n'y avait pas de papier. Et donc, en fait, on allait et on venait quand même beaucoup plus simplement. La Première Guerre mondiale, c'est aussi parce que ma directrice de recherche est Annette Becker, qu'elle est spécialiste de la Première Guerre mondiale et que pour elle, il était important qu'on commence là. Et pour moi aussi, puisque c'est la mise en place des premiers camps de concentration qui sont dénommés tels quels par l'État et où on enferme des Allemands, des femmes, des enfants et des vieillards, pas que des hommes, parce qu'ils sont des ennemis de la nation, alors que certains sont nés en France et qui sont là parfois depuis des générations, mais ils sont avant tout Allemands. Et c'est là... Voilà, c'est ce qui change avec la Première Guerre mondiale. C'est que l'ennemi, il est aussi à l'intérieur et il faut le mettre en prison, j'allais dire, mais dans un camp et enfermer des enfants. C'était pas le cas avant.
Et j'ai découvert aussi que l'existence des passeports date d'après la guerre, là.
Oui, les passeports, avant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de passeport. C'est après la Première Guerre mondiale que ça se met en place avec des visas. Où on fiche déjà les gens et en France, les ministères sont débordés et le passeport Nansen est très protecteur puisqu'il protège les Russes. Mais oui, les passeports permettent le fichage à la frontière et permettent de contrôler les accès, alors qu'avant, il y a des mouvements de population qui posent moins de problèmes.
Oui, parce que moi j'ai toujours pensé un passeport c'était un instrument de liberté qui permettait de voyager, de traverser les frontières. Et non, avec ton travail, j'ai découvert que c'était un des premiers instruments de fichage.
Oui, il permet de ficher les gens d'où qu'ils viennent. À ce moment-là, il y a aussi le carnet anthropométrique pour les nomades qui sont aussi fichés et du coup plus personne ne peut circuler librement. C'est ce que dit Stéphane Zweig dans son livre Monde d'hier, où il dit juste avant la guerre on pouvait circuler librement et puis après la guerre on peut plus circuler librement. Et lui ça fait écho encore plus après dans les années 1930 où il est contraint de à l'exil.
Et donc moi, tu dis que la mention camp de concentration existe depuis cette époque-là, 14-18. Moi, je pensais que c'était les camps de Gurs, Vernet, en 39 pour les républicains espagnols. Non, c'est bien antérieur à ça.
Oui, c'est là, on les concentre en fait, on les interne, on les concentre. Oui, ça date de la Première Guerre mondiale. Et on n'a rien inventé, ils ont fait que reproduire ce qui avait déjà existé. Et c'est pour cela que c'était important que ma thèse elle commence à cette période-là pour montrer que finalement il y a des choses qui sont inventées pendant certaines guerres, que les guerres sont toujours des lieux d'expérimentation et que ce qui a été expérimenté pendant certaines guerres est reproduit à l'identique, voire pire, puisque les conditions de concentration sur les années 30, elles sont encore pires, notamment sur le Vernet, c'est pour des hommes
donc, c'est un camp
en Ariège. Mais parce que le Vernet, c'est pour les hommes indésirables. Ce n'est pas des ennemis, ce sont des indésirables. Et ça commence en 1938, sous le gouvernement d'Aladier, pas sous Vichy, les indésirables.
Parce qu'avant, on parlait que de réfugiés, c'était ça, c'était le terme commun, les gens qui venaient d'ailleurs, des exilés.
Sur la Première Guerre mondiale, ceux qui sont concentrés, c'est les ennemis de la nation. C'est des Allemands et des Autrichiens. Ils sont considérés comme ennemis puisque du coup, c'est la guerre. Donc, c'est des camps de concentration liés à la guerre avant septembre 1939. Donc, c'est novembre 1938, même les premiers internements des Espagnols et des Allemands anti-nazis qui sont soi-disant considérés comme des ennemis. Ils sont anti-nazis. Voilà, c'est la République française. Mais les Espagnols, ils sont considérés comme des indésirables. On les enferme parce qu'ils sont communistes, anarchistes, politiques. Des fois, on les enferme avec des fascistes, ce qui est problématique. Mais en fait, ce sont des gens qui sont indésirables. Et tous ceux qui témoignent et qui écrivent leurs journaux dans le camp disent que les conditions sont effroyables. Après, il n'y a pas d'assassinat dans ces camps-là, à ce moment-là, par la République française. Mais par contre, comme ils disent, on les laisse crever.
Oui, tu cites un auteur allemand, tu dois te rappeler du nom, qui dit que Dachau ont tué les gens, le Vernet, on les laissait mourir.
C'est ça.
L'Aveyron, terre de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale.
Avec l'historienne Florence Delzon.
Sur Dissonance.
Donc la première mention d'indésirable, c'est la fin des années 30, c'est ça?
C'est 38 à peu près, c'est le gouvernement d'Aladier.
Et alors c'est là qu'arrive en Aveyron quelqu'un dont j'aimerais que tu me parles et que beaucoup connaissent, c'est le préfet Jean Moulin en 1937. Et lui, il a affaire à cette arrivée d'indésirables dans le département des Rouges espagnols.
Oui, alors Jean Moulin en 1937, il reste peu de temps, mais il reste suffisamment pour mettre en œuvre, en tout cas aider les associations d'Espagnols et de Républicains. Parce que 37, il commence à arriver par le Pays Basque, en fait. On parle toujours que de la retirada, mais il y a déjà des familles de républicains qui sont obligées de partir de l'Espagne. Et du coup, il y a un premier exil et un premier accueil en Aveyron, fait par Jean Moulin, notamment sur Decazeville et le Saint-Africain. Et il favorise cet accueil-là. Il donne des deniers, mais pas que. En fait, on sent qu'il les protège. Et après, il revient en Aveyron, en 1938. Et là, le fichage est obligatoire, en fait. Donc, tous les étrangers sont répertoriés. Et l'inspecteur des renseignements généraux, il dit qu'il n'y a pas de problème. En fait, ils sont tous gentils, les républicains espagnols, les espagnols. Alors que par la presse, ils sont décrits comme des rouges, des anarchistes, des voleurs d'enfants, des pilleurs. Et il y a très peu de traces de la présence de Jean Moulin en tant que préfet, puisque c'est toujours ses directeurs de cabinet. Donc j'ai trouvé un document vraiment avec sa signature. Sinon, c'est les directeurs de cabinet. Mais en fait, il leur arrive rien. On voit bien qu'il s'oppose à des internements. Ils ne sont pas envoyés dans des camps au Vernet. Ça change à partir de son départ. Mais vraiment, ça change. C'est-à-dire qu'il part, un mois après, il y a des internements.
Ça veut dire qu'il était tenu quand même, il était préfet, donc il respectait la loi. Alors ça veut dire que lui, il ne faisait pas de zèle et qu'après lui, il y en a qui ont fait du zèle ou qui ont fait plus que du zèle?
Juste après lui, il y a eu on va dire, de l'application pure et simple de la loi. Jean Moulin, il fiche et puis c'est tout. Celui d'après, il fiche, il fait interner les plus... connus pour leurs activités politiques, en tout cas de certains Espagnols et Allemands, soit anti-nazis, soit déjà juifs, en fait. Mais c'est pas, ils sont pas arrêtés parce que juifs, ils sont arrêtés parce qu'allemands. Par contre, tout change le 25 octobre 1940 avec l'arrivée du préfet Marion, où là, c'est pas du zèle, c'est de l'ultra-zèle. Donc, le préfet Marion, il arrive fin octobre 1940, donc on est déjà sous le gouvernement de Vichy. Et lui, il applique les lois de Vichy avec zèle, acharnement et volonté constante sans s'arrêter. Il est tellement bon qu'il est envoyé en Savoie, en fait, en janvier 1944, il part. Mais pendant toutes ces années, il traque les Juifs. On en reparlera sur la rafle du 26 août 1942, mais vraiment, il les traque sans relâche, les résistants. Il les traque jusque dans les moindres petits recoins où il peut les trouver. Il déteste les communistes, il déteste les anarchistes, il déteste les gens de gauche. Il assigne à résidence. Le préfet Marion, il a été assassiné par la résistance en octobre 1944 en Savoie. Et c'était vraiment plus qu'un zélé.
Et il était soutenu dans son action, tu me diras si c'est vrai ou pas, par le média de l'époque, c'était très conservateur, l'Union catholique, c'est ça ?
Non ? Oui, l'Union catholique était très très favorable au préfet Marion, était très favorable à la politique de Vichy. Mais derrière l'Union catholique, il y a celui dont on a un peu oublié en Aveyron, puisqu'il a réussi à racheter sa conscience et en tout cas...
C'est Monsieur Chaillol, là.
Oh,
voilà. Ça m'écœure aussi parce que j'ai su qu'il avait été là lors de la cérémonie des fusillés de Saint-Radegonde et que c'était lui qui l'a présidé. Enfin, c'est odieux.
En fait, il est là donc de suite. C'est fin août, la guerre n'est même pas finie en Aveyron puisque la pesade, le maquis de 1944 n'a pas encore eu lieu. Et en fait, il est sur place et il fait une cérémonie effectivement avec... pour la résidence, alors que quelques mois avant, mais vraiment quelques mois, c'est-à-dire un ou deux mois plus tôt, il disait que les résistants, ils n'avaient pas lieu d'être, en fait, et qu'il était toujours pro-Vichy, il était pro-allemand, il était pro-arrestation, et un mois après, il a retourné sa veste, et puis tout le monde a bien voulu oublier que si l'évêque de l'Aveyron avait été... d'autres noms. Alors, on parle beaucoup de Saliège, mais en fait, c'est surtout Monseigneur Corrège. Il a aidé des gens. En tout cas, Chaillol, non. Il a refusé de faire lire la lettre de Saliège.
Oui, parce que reparle-nous de cette lettre de Saliège pour les auditeurs qui ne sont pas au courant.
Je parle. En fait, du coup, la lettre de Monseigneur Saliège, qui a été rejointe par d'autres prélats et dans d'autres religions, s'insurge. Sur le fait qu'on arrête des hommes, des femmes et des enfants, et dans laquelle il dit en substance que les Juifs, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des êtres humains, que nous sommes tous des êtres humains, et que si nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des frères et sœurs, et donc on n'a pas à interner des humains et nos frères et sœurs. Et il s'insurge du traitement qui est fait, et il n'est pas dupe. Et en août 1942, tout le monde sait que ce n'est pas dans des camps de travail qu'ils partent, mais vers la mort. Tout le monde sait, mais personne ne le dit. Et lui, il le dit. Et d'autres le disent aussi. Mais ici, en Aveyron, sa lettre de résistance est interdite.
Il était prêtre où, Monseigneur Saliège ?
C'était l'archevêque de Toulouse.
L'archevêque de Toulouse.
Donc après, voilà, il était aidé par Monseigneur Corrège aussi, qui était à Toulouse. Et voilà, l'évêque du Tarn aussi a écrit. Des pasteurs protestants ont écrit, parce qu'il ne faut pas les oublier. Mais les rabbins juifs aussi, le Grand Consistoire de France a écrit aussi. Donc parce que souvent on dit les juifs, ils n'ont pas résisté. Mais si, les juifs ont résisté, les protestants ont résisté, les catholiques ont résisté, les athées ont résisté. Et tous d'autres ont collaboré. Et en fait, la résistance ou la collaboration, elle ne dépend pas d'une religion, elle dépend d'un état d'esprit.
Les ennemis étaient chez moi, Ils m'ont dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore nous étions trois. Il ne reste plus que moi et je tourne en rond. Dans la prison des frontières, le vent souffle sur les tombes. La liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Nous rentrerons dans l'ombre.
L'Aveyron, terre de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale.
Avec l'historienne Florence Delzon.
Sur dissonance.
On a très peu fouillé sur cette période de la Seconde Guerre mondiale en Aveyron. Qu'est-ce qu'il avait d'atypique, ce département, par rapport à d'autres ? Bon, déjà, il y avait Mgr Chaillol, qui n'était pas Mgr Saliège. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu as découvertes ou que tu pressentais ?
En fait, c'est un département atypique parce qu'il il a une histoire atypique. D'abord parce que l'Aveyron, c'est le Rouergue, et depuis... des siècles et des siècles, les frontières du département n'ont pas bougé, ce qui est incroyable. Et parce que l'Aveyron, c'est une terre ultra-catholique, ultra-conservatrice. Alors, je parle entre 14 et 44, même si on pourrait faire des parallèles encore aujourd'hui. Et pourtant, c'est une terre d'accueil, puisqu'elle accueille les protestants, puisqu'elle accueille peut-être... aussi des cathares, on n'en sait rien, mais on peut imaginer qu'il y a eu des accueils discrets, parce que c'est une terre multiple, c'est une terre sauvage, mais c'est une terre multiple. C'est une terre où quand moi je dis je viens de l'Aveyron en Bretagne, on me dit « Ah ben, vous êtes presque comme nous ». Parce que en fait, cette espèce de sauvagerie, en fait on a un enclavement qui fait qu'on irait presque qu'on est une île, parce qu'à l'époque les routes elles passent pas, parce qu'il y a beaucoup de forêts. Il y en a toujours, parce qu'on a des petits endroits où on peut se cacher. Et en fait, ça crée une espèce d'identité très forte des Aveyronnais et de la terre aveyronnaise. Une terre très qui a envie d'être aussi très indépendante et autonome et qui se revendique d'une certaine racine. Mais en même temps, où quand on dit des Aveyronnais qu'ils sont froids, ils n'accueillent pas. Mais par contre, une fois que le cœur il est ouvert pour toute la vie. Et en fait, je crois que c'est ça l'Aveyron, et je crois que c'est très typique. Et que finalement, nos voisins ne sont peut-être pas aussi durs d'un premier abord. Mais par contre, voilà, on a quelque chose du montagnard, on a quelque chose du breton, on a quelque chose du protestant et du cathare. Et je pense que tout ce mix fait qu'on est une terre un peu atypique au milieu. D'un croisement aussi entre le massif central, le Toulousain dont on est loin, et finalement le Midi aussi. Et en fait, on a une croisée des chemins un peu particulière, et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de départements qui soient... Je pense que pour certains côtés, on ressemble à l'Ariège, avec les Pyrénées d'un côté, nous on a le massif central, et le Midi. Mais finalement, on n'est pas vraiment du Midi et on n'est pas vraiment non plus du Massif central. Voilà, donc on est un peu atypique, je crois, pour tout ça.
Et est-ce que tu penses que cette spécificité a fait de l'Aveyron que ça a été une terre d'accueil, une terre de refuge, une terre de résistance passive, active ?
Alors, c'est une terre de refuge, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui... En rapport du Tarn, par exemple, et de l'Hérault, il y a très peu de gens qui arrivent en Aveyron. Je pense que on est plus proche de ceux du Cantal et de la Lozère pour les gens qui arrivent spontanément. Par contre, on est à la fois une terre de refuge et à la fois une terre de rejet terrible. On n'est pas... C'est pas si pur que ça, l'Aveyron, parce que c'est aussi une terre de rejet. Mais ça se croise. Après, par rapport aux autres départements, c'est difficile de savoir exactement. Parce que ben finalement, chaque département français, c'est très difficile de faire une étude des réfugiés. D'abord, il n'y en a pas eu sur la France entière, parce que chaque département a ses spécificités. Chaque département accueille plus ou moins certains types de populations. Et chaque département, en fait, l'Aveyron, par rapport à sa population en 40, accueille beaucoup. Mais par rapport à l'Hérault, c'est rien. Et donc, c'est difficile de savoir toute proportion gardée. Par contre, sur certaines choses, on a, sur la rafle de 1942, on dépasse tous les records, on dépasse même les prévisions de Vichy. Donc, il y a des arrestations massives, et vraiment.
Je voulais te demander, qu'est-ce qui t'avait révolté le plus dans ce travail-là? Est-ce que c'est cette rafle?
C'est toutes les rafles, qu'elles viennent des Allemands ou des Français. Pour moi, c'est toutes les rafles. Après, c'est surtout ce qu'il y a derrière la rafle. Parce que la rafle, en vrai, c'est une arrestation. C'est une arrestation massive de plusieurs personnes au même moment. Bon, on les envoie à Rivesaltes, dans les Pyrénées. Ils n'y restent pas parce qu'on les envoie immédiatement à Drancy. Ils n'y restaient pas, en fait, parce qu'on les envoie immédiatement à Auschwitz. Mais derrière la rafle, il y a des déportations d'enfants, tout petits. En 42, il y a des enfants, ils ont 4 ans, qui sont arrêtés. En 42, il y a à Barakville une petite fille, il y a une assistante sociale qui se dit assistante sociale, qui appartient certainement au réseau Garel de l'œuvre au secours des enfants, qui sauve des enfants en fait et qui les met dans des abris, qui dit: je suis assistante sociale et je prends la petite fille. Ben, le gendarme lui dit non, parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de preuve que vous êtes assistante sociale. La petite fille, elle part avec sa maman parce que son papa s'est évadé à Rivesaltes, et puis elle est déportée, et puis elle est assassinée immédiatement. Alors, ce qui me révolte le plus, c'est ça, c'est qu'on ait pu faire à des tout petits êtres autant de mal, mais qu'on ait pu faire ça, même un homme, en fait, c'est ignoble, même une femme de n'importe quel âge, c'est insupportable. Et en fait, c'est ça qui a été le plus dur dans ma thèse, parce que la rafle de 42, je l'ai épluchée dans tous les sens pour le master, pour la thèse. Mais en 44, à Rodez, en avril, il y a aussi des enfants qui sont arrêtés, et des tout-petits. D'accord, c'est par les Allemands, mais en fait, ils finissent au même endroit. Et c'est tous ces morts qui n'ont rien demandé, qui sont insupportables. C'est tous ces gens aussi qui sont réfugiés avec des familles et des enfants. Qu'on laisse dans des endroits parfois insalubres et dont on ne s'occupe pas toujours. Et c'est ça qui est le plus dur dans ma thèse. Mais heureusement, elle est contrebalancée par des jolies choses et des belles histoires humanistes. Mais voilà, c'est ce gendarme qui laisse partir une petite fille alors qu'il sait très bien qu'elle part dans un bus pour Rivesaltes et que c'est un camp et que... Il peut pas, enfin, on ne peut pas imaginer qu'elle va dans un camp de travail, elle a 4 ans. Pourquoi il ne la laisse pas partir?
Il y a un passage très émouvant, des passages très émouvants dans ta thèse, notamment quand tu as accès au rapport des huissiers qui passe juste après le départ des gens qui sont envoyés en déportation.
Mais alors ça, c'est trouvé à la maison de la mémoire de Sainte-Afrique. Et en fait, je serai toujours infiniment reconnaissante à M. Moisé d'avoir conservé tous ces documents, puisque je ne les ai pas trouvés ailleurs. Et cet effort de conservation qu'il a fait, c'est merveilleux, parce qu'il y a tellement de gens dans les mairies qui ont tout jeté pour ne pas se souvenir. Mais quand j'ai fait le tri des inventaires, j'ai tout épluché. Et il y en a certains, ils n'ont rien. Alors, soit parce que ça a été pris par les propriétaires, soit parce que ça a été confié aux propriétaires, soit parce qu'ils ont tout pris parce qu'ils n'avaient rien et donc les peu de choses qu'ils avaient, ils les ont prises à Rivesaltes avec eux. Mais il y a aussi des jugements de l'huissier qui dit ben, « c'est sale » ou « il y a des objets partout, par terre ». Et donc, rien que de lire les objets partout, par terre, éparpillés, on imagine... ils ont trois quarts d'heure pour se préparer, en fait. Donc, on imagine la précipitation quand il y a des petits-enfants. Il faut vite faire les sacs. Et il y a une famille, en fait, elles sont deux. C'est la mère et la fille. Elles sont très propres. Il écrit que c'est très propre. Et en fait, elles ont fait un gâteau, certainement la veille, et il est sur la table. Et donc, voilà, elles sont parties. Et ce gâteau qui reste là, comme figé dans le temps, qui reste, voilà, cette brosse de cheveux de cette, d'une vieille femme qui reste sur la table et qu'elle ne prend pas, alors qu'on peut imaginer qu'elle est coiffée avec un chignon. Enfin, d'ailleurs, elle est coiffée avec un chignon sur ses papiers, ça se voit, sur ses papiers d'identité. Et elle laisse cette brosse alors qu'elle ne doit pas en avoir beaucoup. Enfin, voilà. Et après, il y a ceux qui ont un tout petit peu plus. Mais le mythe du juif riche, il est faux. Le mythe du réfugié riche, il est faux. Ces gens n'avaient rien. Ils ont emporté les peu de choses qu'ils avaient. Je reviens du Portugal et monsieur qui a été caché me disait « Mais comment il a vécu mon papa ? Comment, avec quoi il vivait mon papa ?» Donc c'était des Luxembourgeois qui avaient une certaine aisance financière. Il y avait certainement de l'argent, mais il a certainement vendu des bijoux, les petites choses qu'il avait. Il faisait des petits travaux. Il faisait comme il pouvait, en fait. Et après, il y avait des gens qui leur donnaient des choses. Il y a des gens généreux, mais il y avait des gens qui n'avaient rien. Il y avait des gens qui avaient. Il y avait des gens qui n'avaient rien. Et on ne peut pas dire que les réfugiés, ils ont abusé. Parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient rien. Voilà. Et ça, c'est très émouvant de trouver ces passages de traces de... Ils ont rien. Et c'est pareil, il y a un maire à côté de Sainte-Afrique qui se plaint parce qu'il y a des rats dans le logement des réfugiés et que du coup, il veut récupérer les clés pour pouvoir nettoyer. Moi, il n'a jamais rendu ce qu'il y avait dans le... Donc, parce que des fois, ils avaient juste un livre, ils avaient juste quelques habits, mais ça pouvait toujours servir.
Loin vers l'infini, s'étendent des grands pré-marécages. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Auteur de détresse, où nous devons sans bruit des pas et bruit des armes, sentinelle jour et nuit, et du sang des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit.
L'Aveyron, terre de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale.
Avec l'historienne Florence Delzon.
Sur Dissonance.
tu parlais de belles choses aussi, et notamment, tu as évoqué ce gendarme, mais il y a aussi d'autres gendarmeries où ils ont mis du temps à faire des rafles.
Oui, alors en fait, c'est... En Afrique, c'est très étrange parce que ils ont fait les rafles, mais il y a plein de gens qui sont pas dans leur domicile. Et vraiment, ils savent pas où ils sont. Bon, on les trouve après, hein. Ils ont été cachés. Il y a aussi, par exemple, j'ai retrouvé, ils vont chez Monsieur. Donc ça, c'est avant la rafle de 42. Ils vont chez Monsieur Rouve et ils trouvent trois hommes. Et donc il y en a un, il est malade. Et donc, ils font le planton devant la porte, quoi. Mais ils passent par la fenêtre.
D'accord.
Mais ils n'ont rien vu. Et en fait, ils le disent à la préfecture parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Donc, ils sont envoyés en groupement de travailleurs étrangers. Mais il n'arrive rien à M. Rouve. Et en fait, il n'arrive rien. Et en fait, il y a une jeune fille qui est aussi cachée, qui, soi-disant, s'enfuit. En fait, elle a passé toute la guerre chez M. Rouve. Donc, ils savent très bien qu'elle y est. Mais ils ne vont pas la chercher.
Ils n'ont pas fait de zèle. Et tu parles aussi d'Émile Borel, le grand mathématicien saint-africain.
Oui, alors Émile Borel et sa femme ont œuvré pour les réfugiés. Ils ont accueilli en 1939, donc avant que tout n'arrive, en octobre, une colonie d'enfants juifs, des éclaireurs israélites de France au tribunal de Sainte-Afrique. Ça aussi, j'avais des indices en fait. Et j'ai tout trouvé à la maison encore. De la mémoire, quel trésor cet endroit avec un accueil tellement généreux. Il m'avait sorti tous les documents sur la table, donc j'ai une photo avec tous les documents que pour moi. Et je devais passer une demi-journée, j'y ai passé deux jours. Et donc Émile Borel accueille ses enfants avec sa femme et il y a des gens qui restent dans ce tribunal. Il y a une femme avec deux enfants. Et pour moi, si le Saint-Africain a été aussi accueillant, c'est aussi parce qu'il y a l'action de ce maire qui est merveilleux, de sa femme aussi, puisque je pense qu'elle est dans, elle aide les femmes et les enfants au tribunal, c'est quasiment certain, elle leur trouve des choses, elle les aide à trouver une lingerie aussi, et lui connaît du monde. Et donc il fait aussi venir des gens sur le Saint-Africain, il est évidemment destitué par Vichy, il est remplacé, et au moment où il est destitué par Vichy, le directeur du centre d'accueil des réfugiés démissionne dans Sainte-Afrique. Voilà, parce que je pense qu'il ne peut plus travailler comme il le voudrait. Mais en fait, il y a toujours des histoires à Sainte-Afrique où on sent qu'il y a une action clandestine qui se passe. Une action aussi certainement intellectuelle. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, il sait qu'il est surveillé. Donc, il n'est pas connu comme grand résistant, mais il est particulièrement surveillé, Émile Borel, c'est certain. Et donc, il œuvre certainement sur le milieu saint-africain en toute discrétion et avec cet homme qui est... Mais parce qu'il y a des enfants qui sont envoyés de Sainte-Afrique au couvent de Massip.
Qui se trouve où?
Qui se trouve à Cap de Nagar. Et je suis certaine, alors il me manque encore des preuves, qu'il y a un lien entre Sainte-Afrique et Cap de Nagar. Il y a un lien politique et il y a un lien qui aide en fait de soutien et de secours aux réfugiés. Voilà. Mais il y a aussi des liens certainement avec les Espagnols. C'est à Sainte-Afrique et à De Casville qu'on accueille, donc pas loin de Cap de Nac, qu'on a accueilli les Espagnols. Il y a des tissages comme ça qui se font avec des gens qui se connaissent et qui savent qu'ils peuvent se faire confiance. Mais c'est des tissages qui sont difficiles à savoir parce que ce n'est pas des gens qui font des actes de résistance armés. Ce n'est pas des gens qui se sont revendiqués comme grands résistants après. C'est des gens qui n'ont rien dit sur leurs actions, qui les ont gardées pour eux. Et moi, je ne sais pas si un jour il ne faudrait pas que M. Borel et sa famille soient reconnus comme justes. Parce que si Sainte-Afrique a pu accueillir des gens et sauver des gens, peut-être aussi c'est parce que ils étaient là et qu'ils veillaient quelque part sur la population.
Ta thèse fait prendre conscience que dans le mot résistance, il y a la résistance active avec des armes, etc. Mais ça, c'est le bout de l'iceberg. Dessous, il y avait ce qu'on appelait cette résistance passive, mais qui était une vraie résistance, comme ce gendarme qui laisse partir la petite fille, comme Ouais.
Oui, mais par exemple, en fait, à Millau, il y a aussi un gendarme qui met 2 mois avant de faire une enquête. Il y a un homme qui est suspecté et qui est suspecté d'actes de résistance. Et il y a une jeune fille juive et ses parents qui sont suspectés d'être dans la résistance. Et en plus, ils sont juifs. En fait, il met 2 mois à commencer l'enquête. Et puis, il commence son enquête 2 mois après. Enfin, ils aient trouvé une lettre un peu bizarre. Et il va chez les gens. Et les gens, ils sont en colocation avec une dame qui leur dit bah, « Ils sont pas là, ils reviendront à midi. » Il dit bon, « Écoutez, on reviendra à midi. » Et donc, ils reviennent pas à midi pile, en fait. Ils reviennent à 14h. Puis, il dit dans son rapport « Les gens, ils sont pas revenus. On les a pas trouvés. » Voilà, pour moi, c'est une... Et ce monsieur, donc, en 44, devait un peu déranger. Et il a été muté et accusé de collaboration. Et oui, parce que, en fait, il y a aussi, dans l'épuration, quand même après, où j'ai pas creusé ça, mais des choses qui sont pas claires. Et il y a certaines personnes qui ont aidé des gens, mais qui savaient aussi que d'autres avaient été peut-être un peu moins sympas. Et on prenait pas de risques. Et au niveau de la gendarmerie, c'était facile de le muter par peut-être des chefs qui avaient été moins... Voilà, et il a pas appartenu à la résistance pure, certainement, mais il a traîné sur des choses. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a aussi les maquisards de la dernière heure. Les FFI de la dernière heure qui se réveillent en août, comme Monseigneur Chaillot, le grand résistant bien connu, et qui, du coup, ceux qui n'ont pas été dans les réseaux ou qui ont fait des petites choses, je ne dis pas que tous sont sains, non, loin de là, il y a eu des collaborateurs aussi en Aveyron, il n'y a pas de problème, mais voilà, il y a des choses qui sont le devoir de mémoire. En août 1944 et dans les mois qui suivent, fait qu'il faut, il faut faire de l'épuration. Il y a une volonté que les Allemands sont des traîtres et des ennemis de nouveau. Donc, les Allemands juifs et anti-nazis sont de nouveau suspectés.
Même les anti-nazis.
Mais les anti-nazis, s'ils n'ont pas appartenu à la résistance et qu'ils se sont planqués, exact. Parce qu'ils avaient peur. Mais du coup, c'est quoi ces Allemands, en fait. Donc, et c'est là où il faut faire toujours très attention parce que rien n'est si facile et on ne connaît que les actes, effectivement, de résistance armée. Et il y a tout un travail à faire, qui reste à faire, de recherche sur la place des femmes, mais en dehors des maquis, parce que toutes celles qui font passer des messages, toutes ces personnes qui ouvrent la porte, même à un résistant, même à une personne qui est recherchée, toutes ces personnes qui détournent la tête, c'est pas de moi, hein, c'est Pierre Labourie, mais voilà, toute cette petite résistance qui n'est pas connue, qui n'est pas dans les devoirs de mémoire, qu'on a oublié, et des gens qui n'ont pas voulu qu'on se souvienne de ça, et qui ont fait ça juste parce qu'au moment où ils l'ont fait, c'était normal pour eux. Et ils ne savaient même pas les risques qu'ils prenaient parfois. Ceux qui étaient dans les réseaux aussi, mais ceux qui n'étaient pas dans les réseaux, ils ne le savaient pas. Voilà. Donc il y a des choses à travailler encore.
Ta thèse, ton travail de recherche m'a renvoyé à l'accueil des réfugiés aujourd'hui parce que l'accueil des réfugiés en temps de guerre est très compliqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas une similitude avec l'accueil des réfugiés aujourd'hui? Il y a ceux qui les gèrent, comme la préfecture, plus ou moins bien. Et puis il y a ceux qui les rejettent, et puis il y a ceux qui les accueillent ou qui essayent de les aider.
Pour moi, c'est exactement la même chose. Effectivement, j'ai parlé dans ma thèse de l'accueil des réfugiés en temps de guerre, mais en temps de paix, c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on commémore Jean Moulin régulièrement dans les préfectures. Mais il faudrait se souvenir de Jean Moulin et vraiment de ce qu'il a fait, au lieu de le commémorer, parce que c'est facile de commémorer. C'est facile de commémorer une rafle et de dire plus jamais ça. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'accueil de ces jeunes ou des moins jeunes qui arrivent et à qui on refuse un titre de séjour, à qui on met une OQTF? Oh, c'est joli, les OQTF, à qui, du coup, les sous-OQTF, il ne faut pas oublier ce que ça veut dire, OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Donc c'est une expulsion, mais il y a des gens qui ont une obligation de quitter le territoire français qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais commis un acte délictuel. Mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas un papier en règle, c'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé un travail qu'ils ont une obligation de quitter le territoire français. Tous les délinquants ne sont pas étrangers en France. Tous les criminels ne sont pas étrangers en France. Ce serait facile sinon. On dirait, bon, mais on les expulse, on les renvoie où? Dans leur pays? Dans leur pays en guerre? Mais qui est-on pour faire ça? Et une obligation de quitter le territoire français, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas le droit de demeurer ici. Mais pour quelles raisons? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'arriver même? Pourquoi ils meurent en Méditerranée? Parce qu'on leur ferme les frontières? Parce qu'on paye aussi la colonisation? On paye les horreurs que nous avons faites, mais on paye aussi les horreurs des chefs d'État africains ou asiatiques qui mettent des gens en souffrance. Il faut repenser le monde, en fait. Mais ça, c'est une vaste tâche. Mais l'accueil des réfugiés, aujourd'hui, il est... De toute façon, pour moi, déjà, réfugié, c'est un statut, aujourd'hui, ce qui ne devrait pas être. Puisqu'on juge qui a le droit de rester et qui a le droit de ne pas rester. Et donc, les réfugiés, ce sont ceux qui viennent de pays qui sont considérés comme non sûrs. C'est des décisions administratives. Moi, je parle d'exilés, je ne parle pas de migrants, parce que pour moi, un migrant, c'est celui qui est sur la route. C'est un terme américain que je déplore. Et donc, pour moi, ce sont des exilés parce qu'ils sont sur la route de l'exil et ils sont arrivés. Et une fois qu'ils sont arrivés ici, ils ont le droit d'y rester, pour moi. Mais on les trie, on les juge, on les fiche. Et on est exactement comme en 1938, puisqu'on n'est pas en guerre. Et donc, c'est la même chose. On les enferme dans des camps, ça s'appelle des centres de rétention administrative, pour pouvoir les expulser ensuite. On n'a pas beaucoup avancé, en fait.
Ta thèse est un travail d'actualité incroyable. C'est un miroir qui nous permet de comprendre qu'actuellement, on est en train de faire des choses odieuses.
Exactement. Enfin, voilà, moi, je crois vraiment que nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes tous frères et sœurs. Qui que nous soyons, quoi que nous pensions, même si parfois c'est difficile quand on n'a pas les mêmes convictions, mais on est tous des êtres humains et on a tous le droit de vivre ici.
Et alors, avant de finir l'émission avec ta voix qui va nous lire la fin de ta conclusion, j'aimerais qu'on s'interroge sur le fait ou qu'on évoque le fait que tout ce fichage, c'est à partir d'un recensement, de documents papier, etc. Nous sommes en 2026, au 21e siècle, et l'époque de l'informatique, du tout numérisé, mais ça serait terrible s'il y avait...
Si un jour, on doit vivre ce qu'ils ont vécu dans les années 40, il faudra réinventer la clandestinité. Il faudra jeter les portables. Il faudra... Enfin, je sais pas comment on pourra faire, hein, mais ça demandera d'être de nouveau inventif, parce que je ne sais pas comment on pourra faire des faux papiers, alors que avant c'était relativement facile, il leur fallait des imprimés, voilà, il y avait, c'était compliqué, mais finalement on trouvait un tampon. Aujourd'hui, avec ces papiers biométriques, je ne sais pas, avec ce fichage où Je ne sais pas, il faudra certainement réinventer. Après, moi, ce que je me dis aussi, c'est que l'humain, quelque part, il s'invente toujours. Et tous ces jeunes, ou moins jeunes, qui arrivent à franchir la Méditerranée, au péril de leur vie, ils trouvent des solutions. Et on trouve des solutions pour les accueillir et pour quelque part faire qu'ils s'en sortent. Donc, même si l'administration n'est pas d'accord, donc on y arrivera toujours, mais ce sera compliqué.
Est-ce que ta thèse va être publiée ?
J'espère. Je suis en train de voir comment faire pour la publier, mais je souhaite qu'elle soit publiée, oui.
Et est-ce qu'on peut te contacter pour des conférences où tu viendrais intervenir sur ce thème-là ?
Oui, oui, bien sûr, je peux les... Mais en passant par toi, et avec plaisir, je fais des conférences sur... La thèse, elle touche vraiment plusieurs sujets sur le refuge, la résistance. C'est l'Aveyron, mais c'est à vocation universelle. Parce que j'ai pris un lieu, mais en fait, on peut l'appliquer partout. Mmh. Et du coup, je suis prête, oui, avec plaisir, à faire des conférences à qui s'intéresse. Aujourd'hui encore, des personnes fuient leur pays. Sur la route de l'exil, ils cherchent un lieu de refuge. La question de leur accueil préoccupe plus ou moins les institutions et les nations. En France, les exilés suspects sont enfermés dans des centres de rétention administrative. Celui de Rivesaltes, étrange retour des choses, n'a fermé qu'en 2007. Et si la situation des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale reste particulière, les réfugiés d'aujourd'hui, dans le sens de chercher un refuge et non du statut juridique, sont les mêmes que ceux d'hier. Ils cherchent un endroit où ils peuvent vivre en paix. Cette étude se teinte alors d'universalisme, car l'être humain recherche, au fond de lui, la même chose, un havre dans lequel il peut vivre sereinement.
Un immense merci, Florence Delzon.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Salut.
Et fraternité.
Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge vont partager mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oh,